Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on ne peut pas encore se baigner dans la Seine, mais moi, ce n'est pas trois bonnes nouvelles que j'ai, c'est quatre aujourd'hui. C'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle. Et en plus, je le répète, on a pulvérisé notre record d'audience en mars. Rien que en podcast, vous avez été 260 000 à nous suivre et ça continue à augmenter. Alors merci à tous, hein, parce que c'est un extraordinaire encouragement pour moi et pour les invités, évidemment. Exceptionnel parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Et il s'en passe, on en parlait juste avant le début de l'émission. C'est complètement dingue le nombre de trucs qui se passent toute la journée. On ouvre le journal le matin, on se dit mais c'est pas possible, il s'est pas passé tout ça en une journée sur l'économie, sur vos placements, sur votre argent. Alors on a été obligé de sélectionner, il y a tellement de sujets. Au sommaire aujourd'hui, donc le mot de la semaine pour moi, ça sera lending, vous verrez pourquoi. La question macro, le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Est-il inéluctable? Le chiffre de la semaine, c'est cette prévision du FMI revue encore à la baisse pour la croissance française, 0,7%. Deuxième partie de l'émission, bon, bah, évidemment, les événements en Iran vendredi, les perspectives de taux d'intérêt, surtout aux États-Unis. Donc, toujours la même question, est-ce que la correction qui a un peu commencé sur la bourse va continuer? La question d'argent de la semaine, c'est évidemment dans ce contexte-là, toujours la même. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme placement? Le top ou le flop de la semaine? Je répète pas ce que c'est, maintenant vous le savez. Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Et pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Pour une fois, vous allez le voir réellement, son visage ne sera pas flouté. Car pour une fois, il est habillé normalement, il a même mis une cravate. C'est notre géant vert, l'homme de la transition écologique et de l'ESG. Interdit de rigoler quand on dit ESG. Alain Pitou, Senior Advisor. Ouais,
je vais vous faire avaler ça, vous allez voir.
ESG, non mais maintenant, vous êtes d'accord que c'est devenu une blague?
Non. Non, au contraire.
Moi, je dis ESG.
On n'en a jamais eu autant besoin, d'ailleurs, à cause de gens comme vous, d'ailleurs.
ESG. Non?
C'est ça, oui. On en reparlera tout à l'heure.
Un sage parmi les sages, avec une vision précise et compréhensible de l'économie mondiale, Hervé Goulet-Kirs, Senior Advisor chez Accuracy. Vous allez bien?
Ça va, Marc.
ESG, c'est une blague, non?
Non, c'est pluriel et ça crée de la confusion, mais c'est pas une blague.
Ça crée beaucoup de confusion. Pour l'instant, ça crée que de la confusion, en fait.
Non, pas du tout.
Hein? Ça crée d'autres choses que de la confusion?
Oui. De la confusion sortira une vérité.
Ici même, sur ce plateau, depuis des années, elle nous conseille de tout miser sur les États-Unis. Et les États-Unis raflent la mise. Virginie Robert de Constance Associée.
Ah,
vous avez raison, quoi. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas écouté. Franchement, les États-Unis,
c'est... Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été assez convaincante, il faut que...
Si, vous avez été très convaincante, problème, c'est que ma fibre européenne, qui est quand même extrêmement forte...
Oui.
Aussi forte que l'ESG?
Non, elle est beaucoup plus forte. J'ai aucune fibre ESG, mais la fibre européenne, qui est extrêmement forte, je me dis toujours, bon, il y a un espoir. Et là, franchement, je vais vous dire une chose, j'ai abandonné tout espoir.
Ils sont un peu désespérés.
Ah ouais, totalement. Mais vraiment déprimé, c'est même pas désespéré. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce conseil là pour relancer la compétitivité, mais je me dis, on a 10 ans de retard, c'est dingue, quoi. On va monter un fonds européen, bon, c'est mieux que rien. Mais bon, allez, on va en parler. Il a de multiples talents d'économiste à culturiste en passant par éleveur de chats. Et vous allez remarquer qu'il a calmé ses ardeurs capillaires depuis qu'il est entré dans une banque privée suisse et prestigieuse. Alors avant, on avait le droit à tout, mais alors là...
C'est vrai.
Ah, le gars, il s'est... Mais alors, il s'est...
Hein,
alors, il s'est couché, le
incroyable.
Gars.
Incroyable.
Là, maintenant, il est tout propre, coiffé,
il a gardé son ton, pas de moustache,
pas de crête. Christopher Dembig, vous êtes devenu donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, et ça se voit.
Oui, ça se voit, effectivement.
Allez, on part tout de suite avec le premier mot de la semaine. le premier mot de la semaine pour moi, c'est lending. La croissance américaine. Alors voilà ce qu'on vous répétait, nous, hein, donc j'en prends l'entière responsabilité. Elle devait atterrir. On se posait la question ici pendant des mois de savoir si ça serait un hard landing ou un soft landing. Et c'était écrit, hein, on vous l'expliquait chaque semaine, et je m'en excuse. Une hausse des taux aussi rapide et aussi brutale ne pouvait que ralentir l'économie. Il fallait attendre 18 mois et on allait voir ce qu'on allait voir. Résultat des courses, le FMI revoit à la hausse sa prévision de croissance en 2024. Pour les États-Unis, ça sera 2,7%. Non seulement ça, mais elle nous dit que c'est la croissance américaine qui va tirer la croissance mondiale. Et on parle maintenant non plus de hard landing, non plus de soft landing, mais de no landing. Hervé Gouletker, no landing, on sait... Enfin, ici, on s'est complètement planté. Hein. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de moi et de pas mal de gens qui défilaient sur le plateau.
Non, mais lorsque vous lisez un rapport du FMI, Marc, il faut lire une page et la page suivante.
Oui. D'accord, mais parce moi, que... je ne peux pas parce que vous savez que mon attention est focalisée sur quelques secondes.
C'est dommage.
Il n'y a pas d'image en plus.
Je vais tourner la page. Si, en plus, c'est qu'une image, ça.
D'accord.
Donc, je vais tourner la page pour vous. Il y a 2,7%, c'est la croissance moyenne annuelle attendue 2024. Vous tournez la page, c'est 2,1%. C'est fin de l'année 2024. D'accord. Par rapport à fin de l'année.
Et alors ?
Eh bien, 2,1%.
Vous appelez ça un landing, vous ?
Non, mais ce n'est pas 2,7%. Donc, en fait, ce que nous dit le FMI nous dit qu'il y aura du ralentissement par rapport au niveau actuel. La croissance, la fin de l'année dernière... Le deuxième, le troisième, le quatrième trimestre ont été très forts. Le premier trimestre sera encore fort, plus fort que ce que le consensus raconte.
Vous êtes d'accord
vraisemblablement.
Avec ça.
Non, mais jusqu'à maintenant, c'est le cas. Mais lorsque vous lisez le FMI, si on vous dit 2,1 en fin d'année contre 2,7 en moyenne, la conclusion que vous devez en tirer, le pari du FMI, après vous pouvez dire il est bon ou il est mauvais.
Non, je peux dire qu'ils peuvent le réviser.
C'est que T2, T3, T4 seront plus faibles que T1. Voilà l'histoire que nous raconte le FMI.
Je comprends. Hervé, la croissance américaine, elle est forte.
Elle est plus forte qu'attendue.
Elle est plus forte qu'en Europe.
Non, mais ça,
elle est
c'est
plus
vrai.
Forte qu'en Chine.
Mais non, elle est moins forte qu'en Chine.
Non, mais les chiffres sont bidonnés. On sait que c'est pas 5%.
Non, mais.
Vous n'allez pas,
c'est un autre débat.
Non, mais le maoïste Jean-Marc Daniel a essayé de nous.
Jean-Marc est maoïste.
Maoïste.
C'est nouveau, ça.
C'est un entriste.
C'est un changement.
C'est un entriste. Je l'ai démasqué ici même.
Bon, vous êtes très fort, Marc. Alors, bon, il y a ça. C'est le premier aspect. Il faut quand même pas s'arrêter juste comme ça à un chiffre qui flash. Il faut un peu comprendre ce qu'il y a derrière. Et le deuxième élément, c'est pourquoi ça ralentit pas. Pas plus, mais plus vite aux États-Unis. C'est là où il y a une bizarrerie. Oui. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a 3 ou 4 raisons à cela. La première raison, c'est qu'on a eu un soutien budgétaire très fort qui a quand même injecté de la liquidité, de l'épargne auprès de tas de gens qui l'ont consommé, voilà, en pente douce. Deuxième idée, c'est que, en fait, le resserrement monétaire aussi violent qu'il a eu lieu, a été relativement tardif. On a vraiment attendu que les prix accélèrent pour le faire, comme la hausse des taux met du temps à intervenir dans le système
économique. Ça commence à être long. Hein. Mais, parce qu'on nous avait dit 18 mois, 24 mois, tous les économistes ici m'ont dit, alors vous allez voir ce que vous allez voir, il y a une sorte de mur. Pensais qu'à 18 mois, la date anniversaire, on allait s'écrouler.
Le troisième élément, c'est que en fait, l'économie américaine s'est achetée un peu... Alors, appelons ça une vertu ou un vice, c'est comme on veut, mais c'est acheter des financements à taux fixe.
Oui.
Et donc, il y a des tas de dettes qui ont été contractées avec des taux très bas, et donc, pour le moment, je n'ai pas mal. Ouais. Et donc, vous avez ces trois éléments qui expliquent sans doute le retard que l'on a dans l'implication de la hausse des taux sur l'activité. Mais le FMI nous le dit. Alors, puisque vous aimez le FMI, vous allez peut-être le croire, ça va ralentir.
Non, mais ralentir de 2,7 à 2,1, j'aimerais bien qu'on soit à 2,1 en France.
Non, mais, ça fait quand même des taux de croissance en fin d'année. Si vous extrapolez, on est entre 1 et 1,5. Hein. Donc, c'est quand même un certain ralentissement.
Vous n'avez pas été surpris, vous, Christopher Damick, par la vigueur de l'économie américaine ?
Alors, si, aussi bien sur les derniers... On était optimiste, mais pas à un tel niveau. Sur les derniers mois, il y a deux sujets. Il y a un sujet de réaccélération à certains égards de l'activité sur les données qui sont très très récentes et notamment sur l'inflation. On le voit très bien, sur les deux derniers mois, par exemple, au niveau du marché de l'emploi, vous êtes américain, en moyenne, vous pouvez prétendre à une hausse de salaire de 10%. Donc il y a cette réaccélération. On a eu des chiffres au niveau du secteur manufacturier hier sur l'inflation au niveau des prix payés dans le secteur manufacturier qui ont fortement bondi. Ça traduit aussi derrière cela une demande qui reste forte. Je pense que, outre l'élément budgétaire qui me paraît essentiel et qui va perdurer, et ça, c'est quand même, bien sûr, il y a du déficit aux États-Unis, mais on l'utilise bien, pas comme en Europe. Il y a deux autres éléments qui comptent. C'est, et c'est assez peu mentionné, c'est que l'économie américaine aujourd'hui, elle est exportatrice nette de pétrole et de gaz. Ils ont atteint l'indépendance énergétique en un rien de temps, et surtout, ils ont atteint l'indépendance énergétique en étant intelligents. Quand vous innovez dans l'innovation, c'est là où on va convertir le plus rapidement cette innovation en gain de productivité. Et on l'a souvent dit sur ce plateau, les gains de productivité, c'est quand même un élément différenciant côté américain. Et l'autre point sur le fonctionnement de la politique monétaire, ces fameux 18-24 mois, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un changement de paradigme sur les taux. Si vous regardez au niveau du secteur immobilier, alors bien sûr, on n'est pas sur des taux fixes longs comme on a en France, mais plus de 50% des prêts immobiliers à supérieurs à 10 ans sont à taux fixe, par exemple.
Donc ils souffrent pas, c'est ce que
ils souffrent moins, ils sont devenus sur les dernières années de plus souvent propriétaires, donc aussi il y a ce gain-là. Donc vous avez une résilience américaine qui est extraordinaire, mais j'insiste vraiment sur le fait que il y a aussi cette intelligence politique. Vous faites du déficit. Et d'ailleurs, on sait très bien, peu importe qui gagnera à la présidentielle, que ça va être continué. Vous faites du déficit pour relocaliser des activités à forte valeur ajoutée, souveraineté économique. Vous faites du déficit aussi pour des gains de productivité, ce qu'on ne sait pas faire en Europe.
On va en parler tout de suite avec la productivité. Virginie, vous revenez des États-Unis.
Je voudrais rajouter sur... Mais je suis tout à fait d'accord.
Je veux avoir votre impression parce que vous revenez des États-Unis.
Mais le consommateur, et comme on le sait, c'est toujours porté par le... C'est le premier poste dans le PIB aux États-Unis, c'est le consommateur. Le consommateur... Il est effectivement davantage en taux fixe. Et comme vous avez eu cette augmentation des taux très rapide, aujourd'hui, quand vous avez des rémunérations sur vos comptes bancaires à 5%, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc ça, c'est un vrai facteur soutien. Après, je me tue à répéter depuis des années qu'il y a quand même des éléments structurels en dehors de la conjoncture sur la méritocratie, l'innovation, etc. Le temps travaillé, ça c'est vraiment des sujets. On peut en parler.
Je sais. On va en parler tout de suite puisqu'on va passer tout de suite. On va passer tout de suite à la question macro de la semaine. Justement, ça revient à ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire on a ce décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'il est inéluctable? On voit que les États-Unis s'éloignent de plus en plus. On décroche sur la croissance, sur la productivité, sur la compétitivité. Alors on a eu une réunion d'urgence des leaders européens. Je ne veux pas critiquer, je trouve ça très bien qu'on se mobilise. Il faut qu'on bouge. Les mesures qui en sont sorties, alors on va pas cracher dessus, tant mieux, il faut démarrer. Mais pour l'instant, je n'ai rien vu de spectaculaire. Mais vous êtes d'accord avec ce constat quand même, Hervé, qu'il y a un décrochage, et notamment ce que disait Christopher sur la productivité?
Alors, la productivité européenne, alors sur les derniers trimestres, a été calamiteuse. Aux États-Unis, elle a été extrêmement heurtée, ce qui fait que, bien malin, qui peut dire quelle est la tendance actuelle de la productivité américaine? Parce que quand il y a des espèces d'énormes sauts de puce...
Alors on n'est pas sur une sorte d'envolée liée à l'intelligence artificielle, tout ça, c'est bidon, ça. Je sais pas, je vous pose la question.
Mais sur 10 ans.
L'intelligence artificielle, vous avez deux discours. Vous avez le discours des banques d'investissement et des grands cabinets de conseil internationaux qui disent... Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout plein de gains de productivité vont en sortir. Quand vous faites la synthèse de la littérature académique sur le sujet, et le FMI l'a fait il y a 15 jours. Donc voilà, référez-vous au document du FMI.
Et il faut lire l'arrière de la page aussi.
Mais là, c'est...
Troisième page.
Je peux lire que la première page.
Ce n'est pas pour vous, parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est que du texte. Mais en fait, la conclusion du FMI, c'est qu'on est incapable de dire aujourd'hui quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité.
Okay. Donc, productivité, vous dites c'est pas sûr. Que les États-Unis...
Non, mais si on prend une focale courte, aux États-Unis, c'est très heurté et c'est calamiteux en Europe. Alors, le très heurté, vous calculez une moyenne et c'est mieux que l'Europe. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est très heurté et on ne sait pas bien ce qui va se passer demain. Alors après, si vous prenez un regard long, la productivité européenne, c'est 0,4-0,5 points en moins qu'aux États-Unis. Sur 10 ans, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, dans les difficultés de la croissance européenne par rapport aux États-Unis, il y a une dimension de productivité, c'est vrai. La deuxième dimension, c'est que quand on prend les niveaux de PIB On était au même niveau en 2005, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 10 ou 15% de plus aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez le PIB par tête, c'est moins défavorable parce qu'il y a eu une démographie finalement plus favorable côté américain que chez nous. Le troisième élément, si on reste sur les chiffres en valeur, donc un équivalent chiffre d'affaires, c'est que les Américains ont beaucoup mieux manœuvré leur prix à l'exportation, qui ont monté plus que leur prix à l'importation, alors qu'en Europe, c'est l'inverse.
Surtout,
c'est ce que disait Christopher, sur l'énergie. Donc il y a des tas d'éléments. Il n'empêche que quand on a dit tout ça, l'économie européenne est moins bien organisée que l'économie américaine, l'économie européenne est moins réactive que l'économie américaine, et ça, c'est de vrais sérieux problèmes pour nous.
C'est plié le match ou pas, Christopher ?
Ah, ça va être dur, en tout cas, d'inverser la tendance. La réalité, c'est qu'il y a un tel retard qui a été pris. Et effectivement, je suis d'accord sur les gains de productivité dans l'IA, il faudra voir. Mais aujourd'hui, du côté américain, vous avez des vrais gains de productivité dans l'énergie. Et ça, ça a un impact déjà extrêmement
perceptible. Dans l'énergie et dans la tech. Hein,
exactement.
Ce dont alors, bien parle sûr, Virginie oui, en permanence, c'est l'IA, pas l'IA. Mais
voilà,
c'est...
exactement. Il y a d'autres sujets qui reviennent. Vous avez ce retard-là. Vous n'avez aucune vision aujourd'hui européenne. La vision européenne, c'est énormément de communication, beaucoup de dogmatisme, des éléments de langage. Je sais, dans le passé, j'avais travaillé pour un ministre et il fallait faire rédiger les discours. C'est plein d'éléments de langage et l'Europe, c'est la même chose. On vous parle de souveraineté, d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on peut se féliciter qu'on est moins dépendant énergétiquement des Russes, quoique on achète du pétrole russe via l'Inde. Mais on a cette dépendance à l'égard des États-Unis. En l'espace de 3 ans, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, on est passé de 27 à 50%. Le problème européen, et sans vouloir être toujours négatif, c'est qu'il n'y a strictement aucune vision de long terme sur ce qu'on veut être. Alors c'est très bien d'être l'économie la plus solidaire, la plus verte au monde, etc. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quelle industrie on met en avant? Est-ce qu'on met de l'hydrogène? Est-ce qu'on fait par exemple le pari de l'hydrogène? Parce que tout le monde met un peu d'argent sur ça. Mais si vous regardez ce qui est mis du côté américain, juste d'ailleurs par le Texas avec l'IRA, et ce qui est mis du côté français ou encore européen, il n'y a aucune commune mesure. Et donc c'est quand même le problème, c'est que c'est juste de la pure communication politique sans vision industrielle.
Donc vous dites que c'est plié.
Oui, c'est plié, mais il suffit de le regarder. Les peu d'industriels qu'on a en Europe qui réussissent, par exemple Stellantis, on n'est pas capable de mettre en avant le fait que c'est une belle réussite sur les dernières années. Donc il y a aussi cette incapacité à comprendre ce que sont les choix aujourd'hui industriels à faire.
Oui, alors le sujet, c'est qu'en fait, on a une économie, on l'évoquait tout à l'heure, tout début d'émission, qui bouge extrêmement rapidement. Vous rajoutez, donc déjà, c'est assez compliqué pour les chefs d'entreprise d'être aussi mobiles que ça. Et vous rajoutez en Europe des réglementations sur plein de sujets et des marchés qui sont très morcelés. Ouais. Et donc, on a pas de géant dans les télécoms, on n'a pas de géant dans l'énergie. Et un autre point qui fait aussi un gros différentiel avec les États-Unis, c'est le secteur de la défense. C'est-à-dire que nous, on a un secteur de la défense qui est très morcelé, qui reste sur des très carré, très marqué. Aux États-Unis, on n'a pas ça du tout. C'est d'ailleurs aussi une des raisons, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, du décalage entre l'Europe et les États-Unis. C'est qu'eux, on sont parfaitement organisés sur le plan de la défense pour leur propre budget, les dépenses militaires américaines. Non, ça, on ne me chauffez pas là-dessus, parce que je suis très chaud là-dessus. Mais, et donc, ils ont des dépenses militaires qui sont... ils sont très forts sur ce sujet-là. Et puis, ils sont également un
des... ESG, ça, la défense.
Non, c'est pas du tout ESG. Okay. Mais, il me coupe. Et donc, ils ont pour eux, le budget américain de la défense est aux alentours de 900 milliards par an. Enfin, on est quand même sur un truc qui est juste complètement délirant, qui accélère massivement en ce moment parce qu'ils vendent à tour de bras à travers la planète. Donc, on a ces deux décalages-là. Mais enfin, pour revenir à la différence, c'est que nous, on est très morcelé, très réglementé, donc beaucoup moins mobile, et donc dans des périodes comme en ce moment, c'est très difficile d'aller aussi vite que les Américains. Mais je suis pas aussi inquiet, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un choc.
Bah, le choc, on l'a déjà. Hein.
Non, mais on va se bouger. Quoi. Et je pense que le choc, là où on va bouger le plus vite, parce que c'est aussi le plus simple, c'est la finance.
Sans caricaturer, quand vous allez aux États-Unis et que vous voyez toutes ces entreprises de la tech, vous étiez dans la Silicon Valley, vous vous dites, vraiment, on est à la rue, quoi.
Je dis pas on est à la rue, je dis que là-bas, j'ai l'impression que c'est ça fourmille, ça travaille. Et il y a un mot qui est quand même tabou partout, c'est travail.
Si on veut créer de la valeur. Personne n'est là. Hein. Merci d'être venu. Mais alors, cette semaine à Paris, on est en vacances.
Attendez la semaine prochaine.
On a l'impression que c'est...
Non, mais la création de valeur, on le sait, c'est le travail. Depuis 20 ans, on vit beaucoup plus longtemps. On travaille de moins en moins. Et si vous regardez les mêmes chiffres aux États-Unis, ils travaillent toujours autant par personne. C'est symptomatique. Donc, je ne dis pas que c'est... On peut refaire quelque chose. Alors évidemment, il y a des histoires de foisonnement réglementaire.
On n'a pas de géant dans la tech, c'est un peu emmerdant.
Ouais, mais on n'a qu'à se réveiller, on n'a qu'à travailler. Voilà, c'est moi je dis travail.
Là, juste un commentaire sur le travail, parce que je suis complètement d'accord. Vous avez des élections aujourd'hui dans certains pays, notamment en Belgique. L'un des sujets aujourd'hui qui est évoqué, c'est comment on va essayer de réussir à travailler 32 heures par semaine. Et je ne vous parle pas de parti extrémiste, je vous parle de parti de gouvernement. Donc ça traduit aussi une vision européenne, qui est une vision de société des loisirs, mais les loisirs, il faut quelqu'un qui les finance, ou en tout cas qu'on s'endette. Et donc on a une dette à l'égard de quelqu'un.
Alors en parlant justement de la société des loisirs, on va passer au pays de la société des loisirs. La troisième rubrique, c'est le chiffre de la semaine, 0,7%, la prévision de croissance du FMI pour la France. C'est quoi la situation financière, la situation économique pardon, de la France aujourd'hui, objectivement, sans faire du French bashing?
Sans faire du French bashing, vous avez un potentiel de croissance qui est limité. Lorsqu'on est à 1% de croissance, on est à peu près sur notre rythme de croisière. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un environnement européen ou alors on est très pénalisé aujourd'hui par la crise structurelle allemande. L'Allemagne, de Merkel est une Allemagne qui, en matière de choix structurants de l'économie, ont été plutôt mauvais. Et donc, aujourd'hui, il y a une panne.
J'aime bien ça.
Vous voulez bien dire.
Au revoir.
Non, mais vous savez pas qu'on n'a pas le droit de critiquer Angela Merkel ici?
Alors,
il y a sa photo dans ma chambre.
Vous êtes
un fan. Il faut quand même le savoir. Mais bon, c'est pas grave, continuez. Je vous interromps pas.
Vous savez que le Saint-Esprit peut vous tomber dessus et vous rendre compte brusquement que Merkel, c'était pas ça. Donc en fait, il y a du structurel, l'économie va pas bien. Va pas bien à cause de l'Allemagne. Structurel, conjoncturel, on va mettre les deux dans le même sac.
Hein. Économie ne va pas bien à cause de l'Allemagne.
Non, j'ai commencé par j'ai commencé par dire, Marc, qu'on avait d'une façon ou d'une autre une capacité de croître qui était limitée. Si en plus on se prend des soucis, des pets de travers à cause de notre principal client, l'Allemagne, on n'est pas aidé. Ça, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est que si on veut bouger, ça serait bien tout de même qu'on ait une politique économique qui nous aide à bouger. Alors, du côté de la politique monétaire, c'est un autre sujet, c'est pas à notre main, mais du côté de la politique budgétaire, on est encalaminé. La politique budgétaire française, elle n'a pas de marge de manœuvre, à cause des déséquilibres, à cause d'un niveau de prélèvement qui est trop important, et à cause d'une incapacité à faire des arbitrages entre tel type de dépenses et tel autre type. Parce que politiquement,
vous êtes gentil, c'est surtout
ce
une incapacité à gérer un budget.
Il y a tous ces éléments dedans. Oui. Et donc, c'est vrai que... Mais vous prenez la situation... Il faut lire le...
Très rapidement, parce que je vais passer la parole aux autres aussi.
Il faut lire le bouquin de Gérard Haraud, un diplomate français, sur la diplomatie française dans les années 30. La diplomatie française était handicapée par une faiblesse économique et par des déséquilibres de finances publiques. Donc, en fait, ces deux éléments, ça rétroagit partout.
Ça nous donne la page, surtout qu'on sait comment ça s'est terminé, c'est génial. Christopher, la France, la situation, c'est... Bon, moi j'ai l'impression, on me reproche de faire du French bashing, mais en fait c'est parce que ça me déprime. Hein. C'est pas du tout
Vous avez, je vais pas redire ce qui a été dit sur lequel je suis d'accord, mais vous avez une incapacité aujourd'hui à vous projeter, à faire des choix qui sont essentiels pour l'avenir, à sélectionner des industries sur lesquelles on doit être compétente, et surtout derrière cela, à avoir une vision qui est réaliste de comment on fait un budget. Quand vous avez certains responsables politique qui vous dit c'est un problème de recettes avec un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au niveau mondial où ça fluctue avec le de Danemark en fonction des années, il y a quand même un petit sujet. Et sans compter que moi ma crainte c'est même pas tant aujourd'hui que demain, c'est-à-dire que on sait très bien que la transition énergétique et écologique, ça va être l'excuse pour tout faire passer, on le voit très bien, et vous avez, et on ne met pas suffisamment
bidon.
En tout cas,
il dit c'est une excuse bidon.
Et voilà, je rejoins toujours Alain. Et il y a un sujet qui est peu évoqué, c'est que vous avez aujourd'hui mis en place au niveau des collectivités locales des objectifs à 2030 qui sont inatteignables. Donc grosso modo, en 2024, vous avez 6 ans pour les atteindre. Et ils n'ont pas d'argent. ils vont avoir encore moins d'argent parce que l'État veut les pensionner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un certain stade, vous allez avoir non seulement tout ce qui est taxes, notamment aux entreprises et qui sont au niveau local, qui vont continuer d'augmenter. Donc, vous êtes dans une fuite en avant qui, malheureusement, sera jamais arrêtée à court terme parce qu'on a une forme d'indulgence des marchés financiers à l'égard de la France pour les raisons qu'on connaît. Et donc, tant que personne ne sévira, ça va être simplement un appauvrissement généralisé avec un État qui devient de plus en plus présent sans apporter derrière cela un modèle social qui fonctionne. Parce que, par exemple, avoir un taux de prélèvement obligatoire comme au Danemark, c'est un choix de société et ça fonctionne. Vous avez des services publics qui fonctionnent, donc pourquoi pas? Mais en revanche, en France, vous avez un taux de prélèvement obligatoire très élevé et personne n'est satisfait du modèle social pour lequel on a. Il y en a qui veulent aller plus loin dans ce sens ou dans l'autre. Donc, c'est malheureusement, j'oserais dire, la France aurait besoin d'une sanction quelconque, en tout cas d'un réveil. Pour
juste une question, oui. Parce que moi je dis, j'espère que la note de la France sera dégradée pour que ce soit un électrochoc, mais en fait ça n'aura aucun impact.
Ça aura aucun impact, parce que même vous regardez...
Quand on a perdu notre triple A, il ne s'est rien passé.
C'est ça. Je suis même sûr, c'est vendredi, donc dans une semaine, personne va s'y intéresser. Bien. Vous aurez quelques articles et ça passera très rapidement. Il n'y aura simplement pas le ministre de l'économie et des finances qui fera un commentaire, parce que là, c'est négatif. La dernière fois, on a été sauvés, c'était positif. Mais malheureusement, il n'y aura rien.
Pas d'impact. Faut pas oublier. Si vous prenez sur longue période l'écart de taux France-Allemagne, doucettement, il augmente. Jusqu'au jour où peut-être qu'on trouvera que l'écart
est trop important. Il augmente doucement.
Oui, mais depuis longtemps.
Allez, on va parler de la bourse en deuxième partie de l'émission des placements de la semaine. On va parler du top ou du flop, du top 3 des gérants et des actions à acheter ou vendre. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve, on vous a donné la pêche en première partie. Alors là, l'Europe c'est fichu, la France c'est fichu, il faut tout miser avec Virginie Robert sur les États-Unis, avec Christopher Dembick, avec Virginie Robert, avec Hervé Gouletkier et avec Alain Pitou qui a mis une cravate, c'est important, et qui est habillé donc comme pour les JO par Berluti.
Exactement.
Grâce à l'intervention directe d'Eric Lewin qu'on salue ici. Allez, on passe tout de suite au marché.
L'influenceur.
Bon, et que cette semaine c'était moyen. Il n'y avait pas une super ambiance. Il faut dire qu'entre le Moyen-Orient vendredi avec le Nikkei qui a un peu paniqué, évidemment, quand il y a eu l'attaque israélienne en Iran vers 4h du matin, les déclarations de la Fed, mais quand même, on va en reparler tout de suite, hein, un responsable de la Fed qui a dit bah, en fait, peut-être qu'on va pas baisser les taux, mais peut-être même qu'on va les monter. donc c'est vraiment, on voit qu'il y a un climat d'incertitude. Alors maintenant, il y a un climat d'incertitude avec des indices boursiers qui tiennent relativement bien. La bourse américaine...
On a perdu 4-5% quand même.
D'accord, mais enfin, on est à un niveau proche de niveau historique.
Ça y est, là, on sort de la période, comme je l'appelle, de latence, là, sans filet, c'est-à-dire il n'y a pas de résultat. Parce que moi, vous savez, c'est le résultat des entreprises. Il n'y a que ça qui... parce que tous les discours à droite, à gauche, on voit bien, d'ailleurs, tout le monde s'est trompé sur les baisses de taux. Et quand j'étais venue en décembre, je me souviens, le 10 ans était à 3,80. On est à 4,60. Et j'ai dit, mais pourquoi finalement, quelque part, avoir des taux à 4,60 ou 5%, So what? Ouais. Est-ce que c'est un vrai problème s'il y a de la croissance? S'il n'y a pas de croissance, c'est un vrai problème.
Donc vous dites que de toute façon, on va avoir des taux qui vont se maintenir élevés. Que
c'est pas moi, dramatique. Je vois pas. Enfin bon, et j'en sais rien. De toute façon, la Fed, elle fera le job. Elle le fera bien ou elle le fera pas bien. Bon, elle s'adapte. Elle garde sa flexibilité. On verra. Moi, pour moi, c'est la qualité des résultats.
Et donc?
Donc, là, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Parce que pour le moment, on a eu que les banques. Les banques, c'est pas l'économie. Enfin, c'est important, bien sûr. Mais c'est pas ça donne pas de la visibilité. Donc là, on va commencer à rentrer dans les publications. Et je pense que le marché va se reconcentrer sur ces fondamentaux. Et puis ce momentum, les taux, ils vont plus baisser, donc il faut shooter toutes les valeurs de tech. D'ailleurs, ce qui est complètement shootons celles qui sont pleines de cash. Je vois pas trop le sujet, parce que bon, dans mieux. Et quand on est endetté, je peux comprendre êtes sur des taux de croissance à deux chiffres.
Je comprends.
Voilà. Donc ça va être intéressant, ça y est.
Christopher Dembick, c'est quand même très surprenant. On attendait des baisses de taux. On était à 6 baisses de taux de prévision il y a
même
8
pour certains,
ouais. À 3, on était à baisse de taux en juin. Maintenant, on nous dit peut-être à la fin de l'année. et il y a même un gars de la Fed qui nous dit que ça sera peut-être l'année prochaine.
Ça montre aussi, un, qu'il ne faut jamais écouter trop le consensus, parce que déjà 6-8 baisses de taux, c'est un peu exagéré quand même. Et le deuxième point, ça révèle quand même cet aspect qu'on a évoqué en première partie, c'est la surperformance de l'économie américaine par rapport au reste du monde était complètement inattendue. Et d'ailleurs, derrière cela, il y a des effets d'entraînement. Vous avez bien sûr, par exemple, sur les devises, on le voit très nettement. Tout le monde vous disait, on va avoir un cycle baissier du dollar parce que c'est baisse des taux de la Fed, donc baisse du taux du dollar.
Le dollar au plus haut depuis 34 ans contre l'yen.
Exactement. Mmh. Le dollar index, on est à des niveaux du 2 novembre lorsque les taux justement obligataires étaient proches de ces 4,6-4,8%. Donc c'est toujours très compliqué.
Donc vous dites quoi sur la Fed, vous? Parce que même si Virginie dit c'est les résultats d'entreprise... Ouais. Bon, je pense que ça aura quand même un peu d'importance.
Sur la Fed, il y aura la nécessité de baisser les taux pour deux raisons. Un, les anticipations, on peut pas passer de tout à rien, premier point. Deuxième point qui est plus important, la question du déficit budgétaire. Aux États-Unis, vous avez, si on reste à taux constant, donc vous allez avoir une charge de taux d'intérêt autour de 6% du PIB à fin d'année. Si on imagine que la Fed, elle baisse de 150 points de base sur un cycle, vous allez avoir quand même une baisse de la charge d'intérêt de 33%. Alors bien sûr, je fais pas partie des gens qui se disent il y aura pas d'acheteurs de dette américaine, c'est complètement aberrant. Mais en revanche, c'est vrai qu'on peut essayer d'alléger
un peu. Donc vous êtes toujours sur un scénario de baisse des taux, mais peut-être plus tard dans l'année.
Voilà, plutôt septembre, une baisse de taux, peut-être deux en fonction du cycle, mais voilà, très mesuré, on n'est pas du tout sur les mêmes cycles de baisse de taux que par le passé.
Juste très rapidement, Hervé, votre anticipation sur la baisse des taux aux États-Unis, en Europe, on a l'impression que c'est joué, c'est juin.
Je pense que c'est plus intéressant de parler de l'Europe qu'aux États-Unis. Je suis assez d'accord avec Christopher, il y en aura moins, mais aujourd'hui, on est à peu près, à mon avis, sur une bonne norme. Ce qui est incroyable, c'est que avec une correction de la baisse des taux aussi importante, la bourse a assez peu bronché. Ouais. La remontée des taux longs, ce qui veut dire que les anticipations sur les résultats des entreprises sont très bons, peut-être trop bons parce que l'économie américaine devrait quand même ralentir l'ampleur, on ne sait pas. Par contre, sur l'Europe, quand on voit les prix, en fait, on a un regard très facial sur l'inflation européenne, on dit 2,4, c'est presque 2. Si on regarde la formation des prix, les salaires, on est plutôt à 4, les gains de productivité, on a tous dit, il n'y en a pas. Si vous faites 4 de salaire, 0 de productivité, avoir 2 d'inflation, ça veut dire soit les prix à l'importation s'écroulent, avec ce qu'on vient de dire sur le dollar, ce qu'on dit sur le pétrole, c'est peu crédible, soit c'est les marges qui trinquent, et dans ce cas-là, il faut regarder du côté des actions. Donc il faut juste être cohérent.
Donc vous dites
avec
que même sur
éléments.
L'Europe, c'est pas joué.
Moi je pense que c'est pas joué avec... La probabilité s'est faite à 100% en juin. Moi, je pense qu'avec ce qu'on voit sur la formation des prix aujourd'hui, on n'y est pas encore.
Ouais. La bourse, pour vous, Alain, sur les mois qui viennent?
En fait, déjà, pour commencer, il y a eu un changement d'anticipation assez fort en 3 semaines, tout ce qu'on a évoqué, avec des taux longs américains qui sont passés de 4,20 à 4,60, les taux français qui ont monté. La bourse qui a baissé de 5%, c'est pas énorme, mais avec... Et on le voit chaque jour, c'est-à-dire qu'on voit que ça baisse, qu'il y a une raison pour laquelle ça baisse, puis on voit tout le monde qui commence à venir derrière acheter, parce qu'il y a énormément liquidité. Donc 5% de baisse dans ce contexte, c'est beaucoup en fait. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, si on regarde cette hausse des taux et cette hausse du dollar a généré pas mal de conséquences. Ça a commencé à bouger sur les devises, vous l'évoquiez, les devises asiatiques qui se sont quand même pris une belle baisse ces dernières semaines. Avec des sujets, c'est-à-dire que ça, les banques émergentes commencent à évoquer le sujet de remonter leurs taux. Donc ça crée de la volatilité sur les devises, volatilité sur les taux, et ça commence à gagner un peu sur les actions.
Un peu,
oui, d'accord, mais enfin c'est par rapport à ce qu'on anticipait, c'est quand même un changement qui est quand même assez marqué à surveiller. Alors après, effectivement, on va rentrer...
anticipation.
Alors là, je pense qu'on est parti pour une baisse d'au moins 5% d'ici la fin de l'été.
De plus.
Enfin, de baisse supplémentaire de 5%, c'est un peu le minimum. Si les résultats venaient être un petit peu décevants, on pourrait aller taper un moins 15%, ce qui paraît beaucoup, parce qu'on ne l'a pas eu depuis
moins
un moment.
Moins 15 de plus par rapport au...
Ouais, c'est ça. Ouais. Moins 15 par rapport à aujourd'hui. Total, donc ce qui nous fait un CAC. Moi, j'avais fait le calcul. J'avais fait un calcul parce que j'ai travaillé avant de venir. Voilà, 6750 sur le CAC 40.
Il a sorti son boulier pour le...
Voilà, c'est ça, exactement. un boulier fabriqué à San Francisco. Et voilà. Et même chose sur le Nasdaq, avec un retour vers 15 000, ce qui fait un moins 13%.
Ça va dans vos scénarios, ça, une possibilité de continuation de la petite baisse qu'on a?
Non, pas vraiment, parce qu'on pense que côté américain, mais je pense que tu seras beaucoup plus qualifié que moi, on anticipe comme...
Il parle à Virginie.
À Virginie, oui.
Pas à moi. Non, je précise qu'il n'y ait pas de surprise.
Je sens une petite pointe
de confusion des gens qui ne sont pas à la télé.
Mais nous, en termes d'anticipation, je pense que les marges des entreprises, elles vont être à minima conformes, voire supérieures aux attentes. Donc, côté américain, j'insiste. Même si, par exemple, sur Nvidia, qui est un acteur, on avait discuté précédemment dans une autre émission qui est essentielle de mon point de vue. Vous avez, je crois, une baisse de 10% par rapport au point haut, mais c'est 13%. Des points d'entre 13, merci.
Ouais,
des
non, points d'entre
quelque chose à cet égard.
Et là, quelqu'un à la mise à jour, il est sur son boulier, là, il laisse rien passer.
Non.
Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Là. On nous l'a changé.
Donc on reste quand même très très optimiste. Alors c'est pas très contrariant, mais on est très positionné marché américain parce qu'on pense vraiment que ça va réellement surperformer. Et j'insiste, Nvidia a quand même un rôle extrêmement important à cet égard. Après, on peut regarder sur d'autres zones. Le Japon a été présenté comme très bonne performance, mais fondamentalement, c'est quand même une forte exposition américaine.
Donc vous faites la pub pour les fonds.
Ils sont bien piqués.
Allez,
on passe tout de suite au placement de la semaine. Justement, dans ce contexte actuel, Virginie Robert, et c'est marrant, je vais vous poser la question, mais je sais pas, j'ai le sentiment que je connais votre réponse. Où est-ce qu'il faut qu'un particulier dont le profil est équilibré, qui veut pas tout miser sur les valeurs technologiques aux États-Unis, ou est-ce que vous...
Bah non, surtout pas, il faut pas tout miser sur les valeurs technologiques, hein.
Donc qu'est-ce que vous dites?
Dans mon portefeuille, il n'y a pas que de la technologie.
Le placement de la semaine aujourd'hui
mais,
pour vous.
Mais là, non, mais il y a des opportunités dans le marché, là. Ça a toujours bien baissé parce que des moins 5%, il y a des titres qui sont à moins 30 depuis le début de l'année, qui ont connu des de-ratings assez importants sur des communications de management assez prudente, justement, parce que les management, eux, ils sont comme nous, ils se disent on va voir ce qui se passe, hein, exactement. Donc il y a eu des de-ratings et donc il y a des choses intéressantes. Après, je maintiens, moi, sur la partie courte, enfin pas long dans le sens non investissement temps long, continuer à faire du dépôt à terme qui se porte très bien. Je vois pas pourquoi j'irais prendre un risque obligataire. Et d'ailleurs, depuis deux mois, je pense que l'investissement obligataire a été un petit peu chahuté aussi. Donc finalement, quand on a du 5% sur du un mois sur le dollar ou du... Oui, voilà, absolument.
En Europe,
mais en Europe aussi, on a de la rémunération.
Sur les dépôts à terme, ça commence un peu à baisser, hein. Donc on a des rémunérations qui sont moins attractives.
D'accord.
Alors Alain Pitou, sur cette partie-là, il est toujours très bon parce qu'il bosse. Alors il vous fait, j'ai 14,2%, 3,1% dans l'or.
Ne soyez pas dans la caricature. Non, la dernière fois que je suis venu, donc sur un placement 50-50, non, je suis pas venu assez longtemps que ça. J'étais à 35% en action, je reste sur ça avec deux zones, Europe, États-Unis, pas d'émergents, pas de Japon, pas d'Inde, tous ces trucs-là qui sont moins performants et plus risqués.
Pourquoi Europe ? Non mais c'est une question, c'est pas du tout... Pourquoi Europe si on est tous en train de dire qu'on est en train de décrocher, qu'il n'y a pas de potentiel,
non, c'est pas vrai.
Productivité n'est pas bonne...
Non mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre l'économie et certaines boîtes. LVMH n'est pas du tout impliqué par...
C'est ça la réponse.
Ah bah c'est ça la réponse, ouais, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les taux, je baisse un peu, j'en étais à 40%, je passe à 35%, et j'augmente les matières premières. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à 10%, je passe à 15%. Alors les matières premières, alors vous allez, je vous vois avec un petit sourire, il va acheter de l'énergie. Bah oui, on achète un petit peu des choses qui vont performer dans les...
Quoi, alors, quoi. Donnez-moi des exemples.
Eh ben, l'exemple,
l'énergie que vous allez acheter.
Non, mais c'est, alors là, moi, je
charbon,
fais un truc.
De l'énergie verte. Charbon.
Non. Je fais quelque chose que personne ne fait ici parce qu'ils sont tous en train de vendre leurs fonds. J'achète du iShares Diversified Commodity Swap avec des frais à 0,19 qui réplique strictement l'indice des matières premières.
D'accord, mais dites-moi ce qu'il y a dedans.
Il y a un petit peu d'énergie.
Il y a un peu de gaz.
Non, il y a surtout des métaux précieux.
Que du fossile.
Des métaux industriels, du bétail et de l'agriculture. Voilà. Et alors je mets 15% de monétaire, parce qu'effectivement je pense qu'il y a du rendement sur le monétaire, avec toujours 5% de francs suisses qui avait un peu baissé ces derniers temps, mais qui commence à repartir de l'avant.
Vous mettez de l'obligataire quand même. Oui,
oui, il y a 35% d'obligataire au lieu de 40%.
Ce que je dis Virginie en disant c'est pas une très bonne idée.
En fait, le long terme, je suis pas très positif sur les. Et quand on regarde les tendances sont pas terribles sur les marchés obligataires d'État. Et sur le crédit, je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'on a, bénéficié pendant des semaines.
Les tendances sont pas terribles, pourquoi vous mettez de l'obligataire?
Mais parce que j'en garde un petit peu. Je fais du court. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vraiment être sur du court, pas sur la partie longue.
Du court, c'est combien de temps?
Bon, c'est pas plus de 3 ans.
3 ans.
Voilà. C'est parce qu'il y a aussi, il y a du choix en ce moment pour les clients privés. Il y a la possibilité d'investir dans des supports à échéance qui, pour lesquels le risque est quand même assez marginal. Il y en a un petit peu, mais il y en a quand même moins que d'aller acheter du 10 ans américain.
Très bien, vous voyez, c'est précis, donc il faut suivre. Et il suit ce qu'il a dit.
Il
est trop fort, il a bien fait de mettre une cravate. Allez, on passe au top ou au flop de la semaine. Hervé, c'est quoi le top ou le flop de la semaine pour vous?
J'espère que ça sera un top. qui ne se transformera pas en flop. C'est le retour du marché unique des capitaux européens. On a parlé de l'Europe, de plein de choses à financer. Eh bien, si on avait un marché plus profond et si une partie de l'épargne européenne, au lieu d'aller aux États-Unis acheter des entreprises... actions, obligations,
restaient en fait, marché
oui.
unique.
Ça consiste en quoi? Parce qu'on ne sait pas. Enfin, oui.
Au lieu d'avoir une bourse à Dublin, d'avoir une bourse à Amsterdam, d'avoir une bourse à Francfort, une à Milan, etc., etc., vous auriez une unité du marché.
C'est ça le marché Paris, unique de capitaux.
Ben oui. Et puis alors ça c'est pour les actions, pour les obligations, pour le crédit peut-être qu'on pourra, pour les titres d'État il y aura toujours un trou dans la raquette énorme. Hein. On n'a pas de trésor européen, donc on a très peu. Enfin, on a quand même 1000 milliards maintenant, je crois, de titres d'État européens. Donc, c'est quand même, ça commence à être quelque chose. Non, je pense que c'est très important. On a des tas de financements à faire. Aujourd'hui, quand on a parlé de la situation française, on voit bien que c'est très compliqué. On aurait un outil plus efficace à même d'attirer plus largement le chaland que ce n'est le cas aujourd'hui. Ça nous aiderait quand même beaucoup. Donc, espérons que ça puisse se faire.
On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce n'est pas l'outil qui est important, c'est l'envie et les perspectives. Vous allez mettre un marché unique de capitaux, si les perspectives sont pas bonnes et si on fait pas tout ce qu'il y a derrière, on va quand même pas investir.
Marc, l'Europe est mal organisée. Tout ce qui va dans le sens d'une meilleure organisation de l'Europe participera d'une efficacité plus forte.
C'est vrai. Alain,
le dollar qui était
top ou flop.
C'est un top pour moi, c'est un top. Enfin, c'est un top. Le dollar lui-même, c'est un top. Par contre, le problème, c'est de se retrouver avec un dollar qui monte trop fort, qui perturbe tout l'ensemble des marchés financiers. On le voit même la banque. J'ai vu ce matin que la banque du Vietnam se posait des questions sur sa politique monétaire. C'est pour dire le cirque que ça met à travers la planète. Et encore une fois, c'est à suivre vraiment.
Il y a pas mal de pays émergents qui accusent les États-Unis en disant
ce qu'on disait aussi. On parlait la semaine, enfin, je vous écoutais la semaine dernière en disant la Banque Centrale Européenne qui va peut-être baisser ses taux avant la Banque Centrale Américaine. Mais là, on est coincé. C'est-à-dire que si la Banque Centrale venait à baisser ses taux. Oui, d'accord, mais enfin. Pas vraiment.
Je crois pas que ça soit anticipé en juin.
Oui, c'est anticipé, mais ça n'a eu aucun effet sur l'eurodoll. Et cette pauvre Christine Lagarde qui a commencé à.
L'eurodollar, il a 1,06.
Il pourrait baisser encore un peu.
Le top ou le flop?
Je suis bien embêtée parce que mon top c'était aussi le dollar et il a tout dit. Donc
c'est normal. Voilà. Je vous explique ce qu'il fait dans le couloir. Je vous explique. Avant que vous arriviez dans le couloir, il regarde dans les affaires des autres pour voir quelles sont les économies. Il a fait ça. Il fait ça depuis l'école. Il va pas changer.
Quel menteur!
Vous en avez pas d'autres?
La défense. Le secteur de la défense.
Oui, ça c'est un top long terme. Mais pourquoi?
Non, on en parlera dans le couloir justement.
Mais oui, mais moi je ne considère pas que ce ne soit pas ESG, la défense. Il y a peut-être des choses qui sont. Ouais, c'est un autre débat, mais c'est important.
Non, mais
c'est la défense. D'abord, ça inclut énormément de choses, et on voit bien que aujourd'hui, on peut pas s'interdire d'avoir de l'Airbus ou du Thales ou du L3Harris, puisque c'est dans ma liste.
J'ai 30 secondes pour dérouler mon raisonnement ou pas?
Non. Eh vas-y. Non, on n'a pas le temps. Bon, alors on fera une autre émission sur la défense.
Donc le top, c'est la défense.
Top, oui, ça c'est un top long. À mon avis, c'est un top long. Là,
donc le top, c'est la défense, et le flop, c'est le SG, en fait.
J'ai pas dit ça.
Mais la défense.
D'accord.
Allez
au bout de votre raisonnement.
Virginie, la défense, c'est un secteur ESG. Non, mais je retourne.
Je dis pas que c'est un secteur ESG, je dis que c'est pas forcément incompatible.
Ah oui, d'accord.
Allez, Christopher Damier.
En flop, ce sera la Chine. Vous le savez qu'il y a un problème de confiance des investisseurs.
Alors lui, notamment des investisseurs.
Depuis qu'il n'est plus avec les Chinois.
Il travaillait dans une boîte qui appartenait à des Chinois. La Chine se cassait la figure. Et on lui disait toujours, la Chine, ça va. Ah, c'est formidable. Extraordinaire. Le Covid, il gère bien. Ah, oui. Alors maintenant, il est passé chez les Suisses et il balance. Allez-y.
Donc,
allez, ça y est, la parole s'est libérée.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la Chine, merci de recentrer. Les investisseurs, notamment américains, ont toujours un problème de confiance concernant la bourse chinoise. Et en fait, en tout début de semaine, on a eu la décision de la Chine d'obliger les prochaines introductions en bourse à ce que les entreprises, notamment, ça touche beaucoup les small, mid-cap, micro-cap, à s'engager à verser des dividendes. Et pour les entreprises qui sont déjà en bourse, elles doivent avoir une politique très claire de dividendes. Pourquoi cette mesure? Tout simplement simplement parce que aujourd'hui il y a un problème quand même avec les entreprises chinoises qui sont cotées, c'est qu'elles ont une politique de dividendes qui est très fluctuante, pas comme on a en Europe. Vous n'avez pas de ligne directrice sur du long terme. Donc l'idée derrière cela, c'est on va essayer un peu à la fois de forcer celles qui sont déjà présentes, notamment toutes les micro-caps, elles ont mal réagi dans la foulée, à avoir une relation avec les actionnaires qui sont un peu plus sur la longue durée, et ils espèrent, entre autres mesures, faire revenir les investisseurs étrangers.
Bon, dès qu'il quittera Pictet, il balancera sur la Suisse. Oh, la Suisse, quel pays de merde.
Qu'est-ce que tu dis?
Allez, on fasse une suite au top 3 des gérants. Et dans sa grande bonté, Virginie Robert a décidé quand même de laisser les jeunes un peu s'exprimer.
Tout à fait. J'avais dit, hein.
Vous l'aviez dit. Vous avez dit, j'en ai marre d'être au top depuis 18 mois, je laisse de la place. C'est très sympa d'avoir. Je tenais à vous remercier.
Ça avait plaisir.
C'est vraiment sympa de votre part. Pascal Séville en tête avec 9,4%. Léa Dunant-Châtelet, une autre écologiste communiste comme Alain Pitou, est en hausse de 5,8 et Eric Vlen 5,7%.
Lui aussi, mais beaucoup de SG.
Et maintenant,
d'ailleurs, c'est vert. Hein, vous remarquez.
Et maintenant, je peux avoir une musique qui fait peur. Bah ouais. Virginie Robert.
Oui.
La France vous regarde.
Oui.
Amazon.
Ah mais je garde tout, Marc.
Non.
Ouais, Amazon, je garde.
Walt Disney.
Je garde.
CrowdStrike.
Je garde.
Integral Ad Science.
Ça, c'est le gros gamin, donc on va garder, parce que là, franchement, à ces niveaux-là...
Vous en rachetez même?
Non.
Ok.
Non.
Facebook, ça, par contre, c'est pas un gamin.
Meta, ouais. Ça, il faut garder.
Dolby.
Ah, j'adore.
Vous adorez, vous êtes allé les voir, ils vont bien?
Ouais. C'est vraiment bien, c'est une super histoire. Mais c'est comme un laboratoire. Donc moi, j'aime bien ce principe de laboratoire, d'innovation, de...
Et quand on rentre là-bas dans le hall, il y a de la musique partout.
C'est un très beau bureau.
Il y a ça ou pas?
Il y a ça, bien sûr. Il y a des démonstrations de toutes les nouvelles applications. L'Atmos, le Vision.
Vertex, qui, contrairement à ce que pense Alain Pitou, n'est pas Durex, c'est Vertex. L3 Aris Technologies.
Ils ont fait une acquisition, Vertex, là, pour diversifier, parce que vous savez que c'est le leader dans la mycoviscidose, et là, ils viennent de faire une acquisition. L3 Aris, c'est dans la défense.
Oui. C'est ESG. Ralph Lauren, c'est ESG, Ralph Lauren.
Je sais pas, il faudra qu'on fera un débat.
Non, mais ils sont fous, lui, il est Berluti.
Berluti, moi je suis chaussure en carton.
Oui, Nike, c'est maintenant que ça va se réveiller.
Ouais, mais il était temps. ServiceNow.
Bon, ça, c'est du velours. Hein.
C'est du velours.
Ouais.
Ah ouais. Zscaler, vous êtes allé les voir aussi, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Starbucks.
Ouais, ça aussi, ça va bien.
Ça va bien.
Ça, c'est bien.
C'est lié à la consommation. Hervé Goulet-Kern nous dit, mais que j'ai pas lu la page 2, mais que c'est en train de ralentir.
Non, mais on est dans la normalisation.
D'accord.
Vous savez que les gens retournent travailler aux États-Unis, il y a de moins en moins de télétravail, notamment.
On en parle plus du tout, d'ailleurs. Dans la presse américaine, c'est absolument dingue. Le sujet n'est pas du tout abordé.
Apple. Non, mais c'est un vrai sujet.
Apple.
Hein. Et Apple, c'est. Oui, bah, c'est niveau-là.
Bon, qu'est-ce qu'on achète?
Eh bien, on va acheter un titre que j'ai eu très souvent ici. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas Emmanuel Le Chip, parce que.
Pour une fois qu'on fait une bonne émission sans un mec qui dit n'importe quoi.
Connaît très bien ce titre, c'est Lululemon. Lululemon, c'est du, comme on dit, de l'athleisure, c'est-à-dire au départ que de l'équipement pour essentiellement le yoga et ensuite le running, etc. Mais maintenant, c'est devenu une marque, effectivement, pour s'habiller au quotidien, presque.
Ah oui.
Avec un positionnement prix quand même assez élevé.
Ouais, j'ai remarqué, hein, parce que c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Je suis allé voir, j'ai pris deux jogging, c'était mort pour le mois. Hein. Les prix sont chauds. Hein,
alors, une stratégie prix, un produit qualité... Bah oui.
Et
700 magasins dans le monde, donc toujours de la croissance internationale, croissance à deux chiffres sur le chiffre d'affaires, sur les résultats. Lorsqu'ils ont publié, il y a eu un D-rating sur juste une mention de la part du management d'un ralentissement sur le T2. Mmh. Et le titre est à moins 30 depuis le début de l'année, ça se paye 25 fois, il n'y a pas de dette. Franchement, 43 milliards de market cap, 9 milliards 6 de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est bien, c'est une belle histoire.
À la Pitouze, vous êtes plutôt le slip français, vous?
Moi, je suis le slip français, tout à fait.
Allez, Fortinet.
Fortinet, on garde. Vous n'avez pas mis la musique, moi j'ai pas.
Voilà, vous l'avez la musique, non, parce qu'il fait peur. Eramet.
C'est DC, Eramet, on garde.
Thermo Fisher Scientific.
Alors, c'est là où on vend.
Ok,
voilà.
Onto.
Technologie, on garde.
Albert Marle.
On garde.
Solar Edge.
On garde. Vous inquiétez.
Ok, Palantir.
Palantir, on garde.
Republic Services.
On garde aussi.
Atlassian.
Atlassian en garde.
Il a du Zscaler. Mais et je vous dis qu'il copie sur vous.
Non, je l'avais la dernière fois, le 22 mars, il était 17h30.
Et alors, il nous conseille aujourd'hui Lululemon.
Non. Ni Berluti, ni Lululemon. Alors, au départ, j'étais parti pour acheter une boîte techno. Puis, je suis quand même dégonflé avec les marchés qu'il y a en ce moment. Et j'achète American Express. Alors, je suis comme.
American
Express. Je suis comme Virginie. Sur mon portefeuille, il y a 9 valeurs américaines sur 10. Et j'en resterai là. Donc, American Express. Alors, si vous voulez, je déroule. Mais enfin, bon, c'est une boîte assez connue. Donc,
mais pourquoi l'acheter maintenant? On s'en fout.
Maintenant, parce qu'en fait, ça me permet de rebalancer le portefeuille vers un peu de valeurs financières.
Okay.
Sans prendre le risque d'une banque que j'aime moyennement. Une boîte qui est en croissance, qui se développe à l'international, bonne rentabilité. Hein, on est quand même à 10 milliards de résultats avec une croissance de l'ordre de 7 à 10% par an. Un résultat net à 10 milliards. Des marges à peu près stables, malgré la croissance hors États-Unis à 25%. Et puis un PE à 15 fois. Et puis, pour faire plaisir, c'est une des lignes historiques de Warren Buffett. Voilà.
Et vous espérez que...
J'espère faire pareil.
Votre rêve depuis 15 ans d'avoir une gold va enfin arriver parce que vous...
Exactement, oui. Enfin, j'y crois plus.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle parce que là, tous les invités seront très bons. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir et nous réécouter en podcast et en replay sur toutes les plateformes et la plateforme BFM Business. On bat des records mois après mois. Alors faites qu'il en soit pareil en avril. À bientôt.